Il a été journaliste, il a été conseiller politique de premier ministre péquiste, il a été lui-même chef du Parti québécois. Et maintenant, il est de retour à ses premières amours, le journalisme. Jean-François Lisée est là. Salut Jean-François.
Salut Patrick, ça va?
Très bien, toi-même?
Super.
Comment t'aimes ta nouvelle vie?
Ben, écoute, c'est un petit peu comme mon ancienne. Occupé, productif, toujours un peu sur la brèche. Moi, j'aime l'intensité. Alors, j'y suis encore.
OK, on est en octobre 2020. Octobre 2020, c'est le 25e anniversaire du deuxième référendum. C'est aussi le 50e anniversaire de la crise d'octobre. On va parler de ces deux sujets-là pour commencer. Tu étais dans l'entourage des PM Parizeau, puis Bouchard après le référendum. Question que je me pose, pourquoi, vu le score si serré du 30 octobre 1995, pourquoi il n'y a pas eu de référendum rapidement après?
Bon, écoutez...
Tu peux me tutoyer.
C'est tellement une bonne question. Moi, d'ailleurs, dans le mémo que j'ai préparé à M. Bouchard pour me proposer comme conseiller, parce que c'était pas évident du tout qu'il allait me garder, je lui ai dit, vous avez au plus un an pour faire l'indépendance du Québec. Il y a un momentum positif qui s'est dégagé du référendum du 30 octobre 1995 et on avait déjà des sondages qui montraient que on était passé de presque 50 à 56 %. C'était comme s'il y a beaucoup de Québécois qui avaient dit, avoir su qu'on aurait été si nombreux à voter oui, j'aurais voté oui. Et donc, et on avait une deuxième denrée extraordinairement rare. Il y avait une majorité de Québécois qui voulaient un référendum revanche. Alors, moi, j'ai dit, regardez, on va perdre ce momentum-là dans un an, 18 mois maximum. Et donc, on a eu cette conversation-là, M. Bouchard et moi, pendant à peu près un an, à savoir s'il fallait, on pensait, il devrait. Puis, il y a un moment où j'ai pensé que ça allait marcher. C'est lorsque le gouvernement fédéral a décidé d'intervenir dans une cause qui allait mettre en péril le droit du Québec à décider de lui-même. Et M. Bouchard a dit, ben, si c'est comme ça, je vais déclencher une élection. Et donc... je retrouverai le droit de tenir un référendum parce que la loi dit qu'on peut pas tenir deux référendums sur un même sujet dans un même mandat. On aurait pu changer la loi, c'est ce que je pensais, parce que M. Bouchard voulait faire ça. Et lorsqu'il a soumis cette hypothèse-là au Conseil des ministres, au caucus et au bureau du Parti québécois, les gens lui ont dit, si vous saviez comme on est fatigué parce qu'on a eu une élection, on a un référendum en 92 sur les offres fédérales de Charlottetown, une élection fédérale en 93, une élection québécoise en 94, un référendum en 95. Fait que si vous nous forcez à le faire, on va dire oui, mais on aimerait ça se reposer. Et ça, c'est la pire erreur de l'histoire du mouvement indépendantiste. Monsieur Bouchard aurait dû forcer le jeu et on aurait gagné. Mais il a été un peu trop... il était trop à l'écoute. Voilà, c'est toujours été le problème de M. Bouchard d'être trop à l'écoute. En tout cas, c'est un cas où on a manqué une phase historique. Et puis, comme je l'avais dit puis pensé, peu à peu, on était remis sur la défensive. On a perdu notre momentum. Et puis... voilà, l'histoire s'est déroulée.
OK. C'est aussi le 50e de la crise d'octobre. Tu as sorti un livre là-dessus, Insurrection appréhendée, le grand mensonge d'octobre 70. C'est quoi le grand mensonge d'octobre 70?
Ben, le grand mensonge, c'est que pour arriver au résultat voulu par M. Bourassa, M. Drapeau et M. Trudeau, c'est-à-dire d'arrêter pendant la nuit, ça c'est une décision là, consciente, d'arrêter pendant la nuit des gens sans mandat et sans accusation, sans le droit d'avoir la caution, sans le droit d'avoir son avocat, il fallait faire semblant qu'il y avait une insurrection appréhendée, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que le gouvernement puisse être renversé par la force par quelqu'un. Si on ne disait pas ce mensonge-là, on ne pouvait pas invoquer une loi en vigueur, qui était la loi des mesures de guerre, pour donner aux policiers le droit de faire ces arrestations. Alors, il y a eu beaucoup d'excellents livres sur la crise d'octobre, sur le FLQ, etc., mais le livre qui n'existait pas et que j'ai décidé d'écrire, c'est comment des démocrates comme Trudeau et Bourassa en sont venus à dire ce mensonge, à le justifier, puis à vouloir arrêter des centaines d'innocents dont ils savaient qu'ils étaient innocents pendant la nuit du 16 octobre 70. C'est ça le récit.
Dis-moi, il y a un mouvement, en fait, je vais mettre le mouvement entre guillemets, là, avec le 50e, il y a beaucoup de Québécois qui ont témoigné de leurs arrestations en octobre 1970, de la détention arbitraire, etc. 500 Québécois arrêtés sans cause. Là, il y a le Bloc qui va utiliser demain sa journée d'opposition au Parlement d'Ottawa pour débattre d'une motion là, qui demanderait au fédéral de s'excuser auprès des gens qui ont été arrêtés. Sens-tu dans la population au Québec qu'il y a vraiment un goût, une envie de retourner là puis d'exiger des excuses comme ça? Moi, je le sens pas.
Ben, écoute, c'est difficile à sentir, mais je veux dire, le film de Félix Rose, toutes les entrevues qu'on a faites, Balado de Marc Laurendeau, l'excellente série Le Dernier Felkis, je veux dire, il y a quand même un intérêt d'une partie de la population, un intérêt pour notre histoire. C'est le dernier moment le plus traumatique de notre histoire, à part le référendum de 95. C'est une injustice massive et les gens qui ont été arrêtés, dont certains en ont gardé un traumatisme assez long, ils sont encore vivants. C'est le dernier moment important qu'on a pour s'excuser, puis ceux d'entre eux qui n'ont pas été indemnisés, parce qu'il y en a juste 1 sur 5 qui ont été indemnisés à l'époque, de poser un geste. Et si on rate cette occasion-là, le 50e, au 75e, puis au 100e, ils ne seront pas là. Alors, c'est le moment de le faire. Alors, moi, je dis oui, des excuses, une indemnisation pour ceux qui n'ont pas été indemnisés. Puis, M. Laporte, Pierre Laporte, qui est la victime, lui, il a perdu la vie. Okay? On a un pont pour lui, on a des écoles, on a des rues. Il y a eu 3 jours de funérailles nationales à l'époque. Il a sa trace dans notre paysage. Il n'y a aucune trace dans notre paysage pour les 500 arrêtés injustement d'octobre. Moi, je pense que ça prend une place. Il y a eu 5 poètes puis une chanteuse là-dedans. Ça prend une place des poètes emprisonnés quelque part sur le boulevard Robert Bourassa.
T'as évoqué tantôt la série de Illico là, qui a été menée par des journalistes de Québécois. Le Dernier Felkis, très, très intéressante série. Oui. C'est une enquête aussi. Le documentaire de Félix Rose sur les Roses, le clan de Paul et Jacques Rose, son père et son oncle, les 2 célèbres felkistes. Écoute, personne ne va remettre en question que c'est un excellent film, mais t'as vu comme moi les politiciens, des personnalités publiques qui sont allés à la première. Et devant l'affiche du film, comme Paul Rose, on levait le poing. T'en as pensé quoi?
Ben, tu sais, Paul Rose a participé à un assassinat. Je veux dire, il n'était pas présent. Moi, dans l'enquête que j'ai menée sur les circonstances de la mort de Laporte, il y a le fait que Paul Rose appelle son frère et Francis Simard, qui sont dans la maison où ils ont Laporte, pour leur dire de le tuer. Bon. Alors, le film est extraordinaire. Félix Rose est un très bon documentariste. Évidemment, ça humanise Rose, parce qu'il a vécu avant, puis il a vécu après, puis c'est quelqu'un d'intéressant, puis de plusieurs facettes. Mais le point levé devant l'affiche, c'est peut-être pas avoir compris, le côté obscur du personnage.
Tu l'aurais pas fait?
Ah non. Je serais allé, j'aurais applaudi, j'aurais salué tout le monde. On aurait pu me voir avec le poing levé ailleurs, mais pas devant Paul Rose.
Penses-tu que Paul Rose, si on n'était pas dans une autre société, si on regardait ça d'une autre société, ce qui s'est passé au Québec, penses-tu qu'on aurait moins de scrupules à utiliser le mot terroriste?
Ben, moi, je l'utilise constamment dans mon bouquin, puis pourtant, je suis un indépendantiste, puis j'ai lu le manifeste du FLQ, puis je trouve qu'il est pas mal bon. Alors, on peut être d'accord avec une partie de la rhétorique, puis trouver que jusqu'au décès de Laporte, il y avait un côté Robin des Bois, quoique parmi les 300 attentats à la bombe, il y en a eu plusieurs qui étaient meurtriers, oui. Donc il y a eu 9 décès. Il faut dire terroriste, mais il faut dire, écoutez, c'était des jeunes garçons et quelques jeunes femmes dont plusieurs avaient subi la violence policière. Hein. Il faut savoir que la violence policière dans les années 60, c'était terrible, et qui ont eux-mêmes usé de violence pour ce qu'ils pensaient être une bonne cause. Ça ne les pardonne pas, ça ne les excuse pas, puis on peut avoir une tendresse pour ce dérapage qu'ils ont eu. mais il faut avoir aussi de la sévérité.
OK, je t'amène sur un autre terrain que tu aimes bien. Je sais que tu es un fervent fan de politique américaine. Tu as été correspondant dans une autre vie à Washington pour des médias québécois, comme La Presse et l'Actualité. Jean-François, j'imagine que tu suis cette campagne électorale-là. Comment ça va se décider, cette campagne?
Bien, évidemment, notre grande crainte ces derniers mois, c'était que Trump vole l'élection. Et la seule façon de l'empêcher d'essayer de la voler, c'est que ce soit une vague. C'est que dès le soir de l'élection, avant même de compter les derniers votes envoyés par la poste qui sont pas comptés, que sa défaite soit claire. Et quand on regarde, puis là, on se croise les doigts, puis on touche du bois, puis tout ça, mais quand on regarde l'augmentation des écarts favorables à Biden ces derniers jours dans les États clés, on se dit, ben peut-être que ça va être réglé le soir même, mardi soir prochain, que ça va être réglé, puis que Trump n'aura pas le choix. C'est notre espoir. C'est notre espoir, puis ça se peut que ça arrive. J'aurais pas dit ça il y a deux semaines, encore moins il y a un mois ou il y a un an.
Si tu étais journaliste aux États-Unis, dans quel état t'irais faire un road trip présentement?
Ben, probablement la Pennsylvanie, mais j'ai quand même un faible pour la Caroline du Nord ou Phil Gramm, qui est un être abject, pourrait être
battu. Lindsey Graham,
c'est ça, pourrait être battu. Puis ça me ferait plaisir de juste de voir ça.
OK, mais penses-tu, écoute, si Trump gagne, qu'est-ce que ça veut dire pour la démocratie américaine, tu penses?
Ben, si Trump gagne, ça dépend s'il a le Sénat et le Congrès et la Chambre des représentants, ce qui est extrêmement peu probable. Mais en tout cas, s'il gagne, ben, il va vouloir rester pour un troisième mandat. Et il l'a déjà dit plusieurs fois.
Oui, parce que lui, il dit « mon premier mandat, il m'a été volé » entre guillemets par toutes les enquêtes.
Exact. Puis, de toute façon, il aime tellement Kim Jong-un, puis les autres, le président chinois, lui, il est élu à vie, c'était un bon système. Il a tout dit ça, là. Au début, on pensait qu'il blaguait. Maintenant, on se rend compte que c'est ce qu'il veut. S'il gagne à la réglo, c'est-à-dire qu'il y a plus de votes ou plus de votes dans le collège électoral que Biden, ben d'abord, ça va être une énorme victoire, un retournement pour lui. Il aura la légitimité de continuer pendant 4 ans à mettre, moi, comme citoyen du monde, c'est à mettre la planète à risque parce qu'il fait reculer le combat pour le changement climatique plutôt que de le faire avancer et de continuer à démanteler les ressorts démocratiques. Mais je ne pense pas que ça va arriver.
Mais penses-tu que Donald Trump est une aberration ou c'est l'avenir de ce parti-là, le Parti républicain?
Non, c'est pas l'avenir. C'est le sommet. Hein? C'est le sommet de tout ce qui s'est passé au Parti républicain depuis après Reagan. Donc, la dérive droitière, anti-compromis, où les républicains, tu sais, même Ronald Reagan pourrait pas être élu en ce moment dans le Parti républicain tellement il s'est déplacé vers la droite. Et là, on est arrivé à un point de rupture. Là, il y a suffisamment de républicains qui lâchent Trump, qui va voter Biden partout pour voir que ben, le Parti républicain devra se recentrer. Et donc, on va voir s'il est capable de se recentrer. Ça va être très dur pour lui pour la suite. Et une des choses, c'est qu'il a laissé derrière lui, donc ils se sont battus, prenons cette hypothèse, ben, un legs, c'est-à-dire une Cour suprême archi-conservatrice qui va avoir la capacité de contrarier les tentatives des démocrates, ils sont majoritaires, de revenir sur certains des éléments réactionnaires de Trump.
Va-tu sortir le popcorn mardi prochain?
Eh mon Dieu, je pense qu'on va être sur le smoke meat puis la grosse bière.
Merci Jean-François.
Merci à toi.
Salut Jean-François Lisée.